the suspect rammed his car into two of our officers and then hit the north barricade barrier.
Raphaël Jacob, donc c'est une voix, la voix d'une officielle qui raconte ce qui s'est passé à Washington, au Capitole, cet après-midi, c'est-à-dire qu'un forcené, un fou, est entré, a décidé de foncer dans une barrière au Capitole et a tué un agent, a tué un policier.
Un jeune policier, il en a frappé deux avec son véhicule, il y en a un des deux, William Evans, donc, qui était, de ce qu'on en comprend, là, adoré d'à peu près tous ses collègues, incluant non seulement les officiers de police, mais les journalistes qui travaillent au Capitole tous les jours, les membres du Congrès. Et évidemment, ça survient, Marc-Claude, à peine 3 mois, en fait un peu moins de 3 mois après l'insurrection du 6 janvier. Alors, ça aussi, il faut le comprendre, là, alors qu'on commençait à peine à enlever certaines des mesures d'urgence qui avaient été mises en place après le 6 janvier. Parce que pendant les semaines et les mois qui ont suivi, il y avait encore des barrières qui avaient été érigées, qui ont été maintenues là. Puis il y en avait plusieurs qui commençaient à dire, écoutez, on va-tu vivre avec un Capitole fortifié jusqu'à la fin des temps dans la capitale de ce qui est censé être la plus grande démocratie de la planète? Mais là, on commence à enlever certaines des mesures, puis bam, ça arrive.
Ouais, ouais.
L'onde de choc est spéciale, puis je veux te mentionner ceci aussi parce que je pense qu'on le perd un petit peu de vue. Mais regarde juste les 10 dernières années. Si on se replonge il y a 10 ans, l'hiver 2011, qu'est-ce qui s'était produit? On a vu la fusillade qui avait atteint notamment Gabrielle Giffords, la membre du Congrès, là, tu t'en rappelleras. Là,
qui a survécu, mais fortement atteinte.
Exact. Survécu de façon miraculeuse, mais avec de très, très graves séquelles.
Oui.
2013, c'était une autre histoire d'une personne, une femme à ce moment-là, là, qui frappe des policiers du Capitole avec son véhicule. Une histoire qui ressemble beaucoup à ce qu'on a eu aujourd'hui. Là. Mm-hmm. 2017. T'as l'histoire du match de baseball amical entre des membres du Congrès républicain d'un côté.
Oui, j'avais oublié.
Tu te rappelles de ça?
Oui, j'avais oublié, momentanément.
T'as un type qui arrive, armé, tire dans le tas, et là aussi, on avait eu un membre du Congrès, un républicain, qui était passé à un cheveu de mourir. Lui aussi, là, quand tu parles de miraculé, c'en était un autre cas. Puis évidemment, 2021, en janvier, t'as l'insurrection, puis là, t'as ça aujourd'hui. Ça commence à faire beaucoup là sur 10 ans. C'est toujours soit le Capitole, des membres du personnel ou des élus carrément qui sont ciblés. Encore une fois, dans une démocratie, dans cette démocratie-là, pour tout ce qu'elle symbolise à la grandeur de la planète, ce sont des images qui sont très troublantes.
Mais ça peut même menacer, je veux dire, la démocratie dans le sens où il n'y a plus personne qui va avoir envie de se présenter en politique là-bas. Là.
Souhaitons-le pas, non, mais disons que c'est sûr que des choses comme aujourd'hui, ça rassure personne.
Oui, ça n'a pas l'air parti pour ça, en effet, parce que je pense que les gens ont l'air très attirés par la politique là-bas, encore plus qu'ici. Mais bon, tu voulais nous parler aussi d'une... À noter, c'est ça, tu parlais de ce policier qui est mort, mais il y en a un autre qui a été blessé. On ne connaît pas l'état de ses blessures. Et celui qui a foncé, le conducteur, lui, est mort.
A été abattu. Et là, je me garde une petite gêne. Premièrement, je ne veux même pas faire l'honneur de nommer son nom. Là.
Ouais,
je peux juste
te
dire qu'il y a 25 ans. Et là, où il faut faire attention, c'est qu'on commence à peine à indiquer. La police La police n'a pas indiqué de motif politique, n'a pas dit que c'était du terrorisme. En même temps, il y a des médias aux États-Unis qui commencent à sortir le fait que c'est un partisan d'un groupe extrémiste. Donc, attendons.
Tout à fait.
C'est vraiment embryonnaire présentement.
Tout à fait. Controverse au sujet de la vaccination aux États-Unis. Raconte-nous ce qui s'est passé au Vermont. C'est un peu débile, là.
Écoute, j'ai le goût de te commencer ça avec une question. Te rappelles-tu, pendant les fêtes, quand tu étais en onde avec moi, puis on se parlait du débat qu'il y avait aux États-Unis sur la question de la priorisation de la vaccination? On commençait à peine à vacciner, puis je te disais, aux États-Unis, il y en a qui veulent vacciner en fonction de l'âge, d'autres en fonction de la race, ou plutôt veulent prioriser en fonction de l'origine ethnique. Puis là, hier, tu as le gouverneur du Vermont qui a créé une espèce de tollé en annonçant qu'il allait permettre aux résidents du Vermont, donc de son État, qui s'identifie comme étant noir ou autochtone, de passer avant les autres. Premièrement, je pense qu'il faut noter que c'est même pas clair que c'est légal de faire ça, de permettre à quelqu'un d'obtenir un traitement médical sur une base ethnique. Mais de deux, où c'est controversé puis où c'est intéressant, c'est que ça met en lumière un débat qui n'est pas évident parce que, d'un point de vue strictement scientifique, il y a pas de débat. C'est-à-dire que le facteur de risque numéro un pour la COVID au niveau des complications est de loin. Il n'y en a aucun autre qui passe même proche. C'est clair. C'est l'âge. En même temps, ce qui est aussi vrai, c'est que la COVID a fait plus de victimes proportionnellement aux États-Unis chez les minorités ethniques que les Blancs. Puis que cette pandémie-là, elle frappe pas dans un vase clos. Elle frappe dans un contexte où on a un débat, on le sait, depuis quelques temps aux États-Unis, beaucoup plus large sur les inégalités raciales, sur les injustices raciales.
Oui.
Fait que c'est pas évident de trancher. Je dirais que c'est le plus récent chapitre dans une controverse qui est encore une fois beaucoup plus large que ça.
Bon, et en quelques secondes, les recommandations des centres de disease control pour les personnes vaccinées?
Oui, ben ça, écoute, je garderai ça pour la semaine prochaine parce que je veux vraiment, vraiment qu'on garde une anecdote pour la minute qui nous reste.
Moi, je veux aussi l'anecdote de la semaine. un sénateur républicain qui s'exprime sur la crise à la frontière mexicano-américaine.
Oui, et la crise, évidemment, rien de drôle à la base parce que c'est surtout une crise humanitaire d'abord et avant tout. Mais dans cette crise-là, il y a aussi l'aspect sécuritaire, l'aspect de la question des drogues qui traversent la frontière en provenance du Mexique. Puis, il y a quelques jours, tu as peut-être vu ça, il y a un groupe de sénateurs républicains qui se rendent à la frontière pour s'adresser aux médias. Puis là, je veux te faire entendre ce qu'un des sénateurs en question, M. Daines du Montana, avait à dire pour montrer comment les choses étaient tellement mieux avant. Écoutons ça ensemble.
The flood of Mexican meth, Mexican heroin, Mexican fentanyl. 20 years ago in Montana, meth was homemade. It was homegrown.
Autrement dit, il y a 20 ans...
On aimait mieux la nôtre.
On faisait la nôtre. C'était chez nous, c'était produit maison.
Tu sais, c'est ça, je vais traduire. Donc, oui. Il dit il y a 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, le méthanol, l'héroïne, tout ça, ouais. Ça arrive du Mexique. Il y a 20 ans, on avait nos drogues à nous autres.
Puis Marco, je vais juste te laisser là-dessus rapidement. Je comprends ce qu'il voulait dire. Mais la meilleure remarque dans tout ça, c'est quelqu'un qui a dit que le sénateur avait déjà trouvé son slogan pour sa prochaine campagne de réélection. Make American Meth Great Again.
Ou juste Make American Meth Again, point.
Ouais, exactement.
C'est bon. OK, ben écoute, merci pour ce rire qui fait du bien. Joyeuse Pâques à toi.
Joyeuse Pâques, ma chère.
OK, bye-bye, à bientôt.